Chapitre 5. Il y avait, comme on le voit, bon nombre de documents inédits à recueillir à Sainte-Menou. Je m'en doutais, aussi je résolus d'y faire une longue halte. Notre conducteur, on se rappelle que nous avions un char à banc et un conducteur, notre conducteur me demanda où je voulais descendre. Je répondis sans hésiter, à l'hôtel de Metz. Pourquoi à l'hôtel de Metz plutôt qu'ailleurs ? J'avais lu dans Le Rhin de Victor Hugo une description de l'hôtel de Metz qui m'avait fait me dire à moi-même « Si jamais je passe à Sainte-Menou, je logerai bien certainement à l'hôtel de Metz. » Cette description, la voici. Sainte-Menou est une assez pittoresque petite ville répandue à plaisir sur la pente d'une colline fort verte surmontée de grands arbres. J'ai vu à Sainte-Menou une belle chose, c'est la cuisine de l'hôtel de Metz. C'est là une vraie cuisine, une salle immense. Un des murs occupé par les cuivres, l'autre par les faïences. Au milieu, en face des fenêtres, la cheminée, énorme caverne qu'emplit un feu splendide. Au plafond, un noir réseau de poutres magnifiquement enfumées, auxquelles pendent toutes sortes de choses joyeuses, des paniers, des lampes, un garde-manger, et au centre, une large nasse à claire-voie où s'étalent de vastes trapèzes de lard. Sous la cheminée, outre le tourne-broche, la crémaillère et la chaudière, reluit et pétille un trousseau éblouissant d'une douzaine de pelles et de pincettes de toutes les formes et de toutes les grandeurs. L'âtre flamboyant envoie des rayons dans tous les coins, découpe de grandes ombres sur le plafond, jette une fraîche teinte rose sur les faïences bleues et fait resplendir l'édifice fantastique des casseroles comme une muraille de braise. Si j'étais Homère ou Rabelais, je dirais « Cette cuisine est un monde dont cette cheminée est le soleil. » C'est un monde, en effet, un monde où se meut toute une république d'hommes, de femmes et d'animaux. Des garçons, des servantes, des marmitons, des rouliers attablés, des poêles sur des réchauds, des marmites qui gloussent, des fritures qui glapissent, des pipes, des cartes, des enfants qui jouent, et des chats, et des chiens, et le maître qui surveille. Mince agitat molem. Dans un angle, une grande horloge à gaine et à poids dit gravement l'heure à tous ces gens occupés. Parmi les choses innombrables qui pendent au plafond, j'en ai admiré une surtout le soir de mon arrivée. C'est une petite cage où dormait un petit oiseau. Cet oiseau m'a paru être le plus admirable emblème de la confiance. Cet antre, cette forge à indigestion, cette cuisine effrayante est jour et nuit pleine de vacarme. L'oiseau dort. On a beau faire rage autour de lui, les hommes jurent, les femmes querellent, les enfants crient, les chiens aboient, les chats miaulent, l'horloge sonne, le couperet cogne, la lèche-frite piaille, le tourne-broche grince, les vitres frissonnent, les diligences passent sous la voûte comme le tonnerre, la petite boule de plume ne bouge pas. Dieu est adorable, il donne la foi aux petits oiseaux. Et à ce propos, continue Hugo, je déclare que l'on dit généralement trop de mal des auberges. Et moi-même, tout le premier, j'en ai quelquefois trop durement parlé. Une auberge, à tout prendre, est une bonne chose et qu'on est très heureux de trouver. Et puis j'ai remarqué qu'il y a dans presque toutes les auberges une femme admirable, c'est l'hôtesse. J'abandonne l'hôte aux voyageurs de mauvaise humeur. Mais qu'il m'accorde l'hôtesse. L'hôte est un être assez maussade, l'hôtesse est aimable. Pauvre femme, quelquefois vieille, quelquefois malade, souvent grosse, elle va, vient, ébauche tout, achemine tout, complète tout, talonne les servantes, mouche les enfants, chasse les chiens, complimente les voyageurs, stimule le chef, sourit à l'un, gronde l'autre, surveille un fourneau, porte un sac de nuit, accueille celui-ci, embarque celui-là et rayonne dans tous les sens comme l'âme. Elle est l'âme, en effet, de ce grand corps qu'on appelle l'auberge. L'hôte n'est bon qu'à boire avec des rouliers dans un coin. On comprend que la description m'avait donné le désir de visiter l'auberge. J'entrai de plein bond dans la cuisine. Tout était à sa place, le cuivre, la faïence, l'horloge, le lard, les pelles et les pincettes. Tout, excepté le petit oiseau qui était mort de vieillesse à 11 ans. C'était un chardonneret. En voyant la minutieuse attention avec laquelle j'examinais la cuisine, l'hôtesse, Madame Chollet, se mit à sourire et me dit « Je vois que vous avez vu ce que M. Victor Hugo a dit de nous. Il nous a fait grand bien avec quelques lignes. Dieu le bénisse. Que ta bénédiction traverse les mers, pauvre âme reconnaissante, et qu'elle soit pour l'exilé comme un souffle de la patrie. Le roi a passé avec toute la famille royale. On ne s'en souvient que comme d'un fait historique. Personne ne peut dire, en passant, le roi nous a fait du bien. Au contraire, le roi fuyait, le roi trahissait son serment, le roi allait chercher l'étranger pour rentrer avec lui en France. Le roi faisait du mal à tout le monde. Un poète passe. Il est inconnu aux gens qui le reçoivent. Il laisse, toujours inconnu, tomber quelques lignes de sa plume. La description d'une cuisine d'auberge. Un million d'hommes lisent cette description. Personne ne passe plus sans s'arrêter à l'auberge indiquée. La fortune de l'aubergiste est faite. Et 17 ans après, au fond de son exil, le poète sent, dans l'air qui souffle de France, quelque chose de doux comme le frôlement de l'aile d'un ange. C'est la bénédiction d'une vieille femme qui lui arrive. « Oh, mon bien cher Victor, que ces mots qui vous étaient adressés m'ont été doux. Dieu le bénisse. » On devine qu'en me nommant, je fus bientôt en pays de connaissance. J'indiquai l'objet de mon voyage. On me conduisit chez M. Mathieu. Je trouvai un vigoureux vieillard de 84 ans qui me reçut avec une admirable cordialité, prit sa canne et son chapeau et s'offrit d'être mon cicérone. J'acceptai de grand cœur. C'est à l'obligeance de cet excellent homme que je dois la plupart des documents écrits que j'ai été assez heureux pour recueillir. C'est à sa mémoire que je dois une foule de souvenirs dont j'ai déjà utilisé quelques-uns et dont les autres trouveront leur emploi en temps et lieu. M. Mathieu avait 18 ou 19 ans quand s'accomplissaient les événements que nous racontons. Il se souvient donc des moindres détails. Il était là quand les voitures arrivèrent et partirent. Il était là quand partit, en tirant un coup de pistolet, le sous-officier de dragon. Il vit Drouet et Guillaume s'élancer à la poursuite du roi. Il aida à ramasser le mort et le blessé quand les bourgeois, croyant tirer sur les dragons, tirèrent sur leurs compatriotes. Enfin, il éclaircit un point qui, jusque-là, était resté obscur pour moi chez tous les historiens. C'est celui-ci. Vers 11 heures du soir, Guillaume arrivait à Varennes, où Drouet le rejoignait à 11h30. Comment Drouet, qui montait un cheval de maître, tandis que Guillaume ne montait qu'un bidet de poste, comment Drouet était-il arrivé à Varennes une demi-heure après Guillaume? C'est ce que nous allons voir en suivant les voitures royales. Elles étaient parties au grand galop par la route de Clermont. C'était, on se le rappelle, M. de Damas qui était à Clermont. Vers les 8 heures, il lui était arrivé un courrier de M. de Choiseul. Ce courrier, c'était le pauvre Léonard et son cabriolet. Il venait annoncer à M. de Damas qu'il avait quitté M. de Choiseul à Pont-de-Sommevel à 4h30 et qu'on n'y avait encore vu aucun courrier. Léonard lui avait dit, en outre, le danger que couraient M. de Goguelin, M. Boudet et leurs 40 hussards. Le danger que courait M. de Damas n'était guère moindre. L'effervescence était la même partout. La vue de ces soldats avait provoqué des murmures. L'heure de la retraite approchait et il comprenait qu'il lui serait difficile de laisser, pendant la nuit, les hommes sous les armes et les chevaux scellés, tant les dispositions hostiles devenaient manifestes. Sur ces entrefaites, les coups de fouet redoublés des postillons annoncent de loin l'arrivée des voitures. L'ordre de M. de Bouillet était de monter à cheval une demi-heure après le passage des voitures et de se replier sur Montmédy en passant par Varennes. M. de Damas se précipite à la portière, dit au roi quels sont les ordres de M. de Bouillet et lui demande quels sont les siens. « Laissez partir les voitures sans rien manifester, répond le roi, et suivez avec vos dragons. » Pendant ce temps, chose incroyable, une discussion s'élève entre la personne chargée de payer les postillons et le maître de poste. De Sainte-Menou à Varennes, il y a double poste. On ne veut payer que la poste simple. 10 minutes sont perdues dans cette discussion qui indispose les assistants. Enfin, les voitures partent. Elles ne sont point à une demi-lieue que Drouet arrive à fond de train. Au-dessus des îlettes, lui et Guillaume se sont séparés. Guillaume a pris la traverse par les bois, il gagnera ainsi plus d'une lieue. Drouet suivra la route, tâchera d'arriver à Clermont avant le roi, et s'il n'y peut réussir, avant lui, du moins à Varennes. D'ailleurs, grâce au raccourcissement de chemin que lui donne la traverse, Guillaume, à coup sûr, arrivera à Varennes avant le roi. Comprenez-vous maintenant comment Guillaume et Drouet se trouvent séparés ? Drouet arrive, non pas à temps pour empêcher le roi de partir, mais à temps pour empêcher M. de Damas et ses dragons de le suivre. Les dragons de M. de Damas sont à cheval. M. de Damas leur ordonne de partir 4 à 4 et le sabre à la main. Ceux-ci restent immobiles en enfonçant leurs sabres au fourreau. En ce moment, les officiers municipaux paraissent. Ils somment M. de Damas de faire rentrer ses hommes dans la caserne, attendu que l'heure de la retraite est passée. Pendant ce temps, Drouet a changé de cheval et repart au galop. M. de Damas, qui n'a pas encore perdu l'espoir d'enlever ses hommes, se doute dans quel but Drouet part. Il appelle un dragon sur la fidélité duquel il peut compter et lui donne l'ordre de rejoindre Drouet, de l'empêcher de poursuivre sa route et de le tuer s'il insiste. Le dragon s'appelait Lagache. Sans faire aucune objection, avec l'obéissance passive d'un soldat, peut-être même avec le dévouement chaleureux d'un royaliste, il s'élance à la poursuite de Drouet. Aucun historien, sinon M. Gustave Neveu-le-Maire, ne nomme ce soldat. Tous le font partir de Sainte-Menou, ce qui n'est pas probable. Drouet part de Sainte-Menou avec Guillaume et deux autres amis. Drouet et Guillaume montaient sur des chevaux de selle, les deux autres sur des maillets. On sait ce que c'est qu'un maillet, c'est le cheval de tirage que ne monte pas le postillon. Il n'y a pas de probabilité qu'un seul dragon, si bien armé qu'il soit, se mette à la poursuite de 4 hommes. D'ailleurs, partant près d'un quart d'heure avant Drouet, il ne pouvait point partir à sa poursuite. M. Buirette, témoin oculaire, qui a écrit une histoire de Sainte-Menou, ne dit pas un mot du dragon Lagache. M. Mathieu ne se rappelle pas avoir vu partir d'autres dragons que le brigadier ou le maréchal des logis qui a tiré un coup de pistolet en partant et que l'homme au fléau a essayé inutilement d'arrêter. D'ailleurs, M. d'Andouin cède sans résistance aucune. M. de Damas, au contraire, fait une résistance désespérée. Ses dragons refusent de mettre le sabre à la main. Ses dragons refusent de le suivre en face du conseil municipal qui le somme de rentrer, lui et ses hommes, à la caserne. Il les harangue, les prie, les supplie, les menace, et enfin, quand il n'y a plus d'espoir, il enfonce les éperons dans le ventre de son cheval et passe au milieu de la foule menaçante en criant « Qui même me suive ?» 3 hommes seulement répondirent à cet appel et descendirent au galop avec M. de Damas, la côte de Clermont. Drouet a 3/4 de lieue d'avance sur eux, mais il est poursuivi par un homme brave et bien monté. Seulement, à la sortie de Clermont, le chemin se bifurque. Une route mène à Verdun, l'autre à Varennes. Il n'y a pas de probabilité que le roi passe par Varennes, où il n'y a point de relais de poste. D'ailleurs, Guillaume sera à Varennes. Drouet s'élance sur la route de Verdun. À peine a-t-il fait 200 pas sur cette route qu'il rencontre un postillon qui rentrait à Clermont. « As-tu vu 2 berlines, dont 1 à 6 chevaux ?» lui demande Drouet. « Non !» répond le postillon. Le roi a donc suivi la route de Varennes. Drouet rejoindra la route de Varennes par la traverse. Il fait sauter le fossé à son cheval et prend à travers champ. Son erreur le sauve, selon toute probabilité. Le dragon Lagache, qui sait que le roi va à Varennes, voit prendre à Drouet la route de Verdun et ne juge pas à propos de le poursuivre plus longtemps. Puis, quand il voit que Drouet répare son erreur, il est trop tard. Drouet a 1/4 de lieue d'avance sur lui. À cette occasion, M. de Lacretel, de l'Académie française, écrit, dans son Histoire de la Révolution française, quelques lignes du plus beau grotesque. Qu'on nous permette de les citer comme un double exemple de partialité dans l'opinion et de platitude dans le style. Voici ce que dit notre académicien. Le commandant avait pris une précaution qui suffisait pour affranchir le roi de tout péril. Comme il avait remarqué le départ de Guillaume et le chemin qu'il avait pris, il avait ordonné à un brave maréchal des logis de le suivre, d'arrêter sa marche ou de le tuer s'il opposait de la résistance. Celui-ci se précipite avec toute l'ardeur d'un bon français qui va sauver son roi. Après une heure de la course la plus rapide, il aperçoit le cruel émissaire, il va l'atteindre, il cherche déjà à l'arrêter par ses cris. Mais Guillaume a redoublé de vitesse, il est parvenu à dérober ses traces à celui qui le poursuit. Le maréchal des logis, après avoir erré par de vains détours, délibère s'il ne retournera pas contre lui-même l'arme dont il allait frapper le fatal jacobin. Voyez-vous le dragon Lagache qui délibère, comme Brutus, s'il se laissera tomber sur son sabre, ou, comme Caton, s'il s'ouvrira les entrailles. Passons. Non, ne passons pas. Nous sommes accrochés par l'abbé Georgel. Versons-le. L'abbé Georgel fait mieux encore que M. de la Cretelle. L'abbé Georgel fait arrêter le roi à Sainte-Menou. Drouet, dit-il, colorant sa curiosité de son zèle, se présente à la portière entre 11h et minuit. La réverbération de la lumière frappe les traits du roi qu'il a vu à Versailles. Il le reconnaît et l'arrête. Puis, avec un sentiment qui fait honneur à sa charité chrétienne, le digne historien exprime sa pitié pour ce malheureux révolutionnaire, pour ce patriote inhabile qui consulta moins son intérêt personnel que sa passion effrénée pour l'égalité et ne sentit pas qu'en favorisant cette évasion, il allait se couvrir de gloire et arriver à une grande fortune. Voyez-vous le misérable qui est désintéressé ? C'est à n'y rien comprendre. Puis vient Camille Desmoulins, l'enfant terrible de la Révolution, aussi ridicule et aussi menteur dans sa diatribe populaire que l'autre dans son apologie royaliste. « À quoi tiennent les grands événements ? Dit-il. « À Sainte-Menou, ce nom rappelle à notre Sancho Panza couronné les fameux pieds de cochon. » Il ne sera pas dit qu'il aura passé à Sainte-Menou sans avoir mangé sur les lieux des pieds de cochon. Il ne se souvient plus du proverbe « Plures occidit gula quam gladius ». Le délai de ses apprêts lui fut fatal. Revenons au roi qui poursuit sa route sans se douter de ce qui se passe derrière lui et qui compte trouver à Varennes les relais et les hussards de M. de Choiseul.